Merci beaucoup, Colette, de ces éclaircissements si importants. J'aurais beaucoup de remarques et je crois que nous en avons tous et beaucoup de questions. Vous nous avez présenté des choses en trois temps, les dits de l'inconscient, sans que il fallu ces interprétations. Le dire acte et l'indire. Je ne poserai qu'une question pour laisser la parole à nos amis. Et peut-être, si j'ai l'occasion, je reviendrai dans la discussion. Sur la proximité du dire acte et du performatif. Je crois qu'il faut quand même rappeler que les théories d'Austin et qui s'en est suivi une philosophie du langage ordinaire sont quand même des doctrines qui nient l'inconscient et qui refusent toute autre existence du réel que le réel de l'empirisme matter of fact anglo-saxon classique. Donc, la proximité du dire acte et du performatif est quand même à tempérer de cette remarque quant à l'origine du terme de performatif, me semble-t-il. Ce qui me semble capital dans ce que vous avez avancé, je trouve pivote autour de la formule que vous avez tirée là encore à la page 25. C'est-à-dire que, au fond, il me semble que la question du dire acte, c'est seulement sur le dire acte que je vous poserai cette question, me semble-t-il, c'est de savoir si par l'acte du dire, comme par d'autres types d'actes, mais en particulier par l'acte du dire, on peut mordre sur le réel. On peut attraper un bout de réel, et si le dire acte est une sorte de forçage du réel. Et à ce titre, alors, serait-ce ce que Lacan nous indique à la fin de son enseignement, quelque chose qui va plus loin que l'inconscient? Voilà ma question.
Oui. Bon, je vais dire quelques mots pendant que vous trouvez vos questions. Hein. Donc, vous trouvez que le mot performatif est gâché par son origine hostile. Bon, pourquoi pas? Il n'empêche, que quand on dit performatif, ça garde le sens de quelque chose qui a l'efficace d'un faire. Donc, je ne vois pas l'inconvénient, moi, personnellement, à l'appliquer au dire acte, puisque le dire acte est performatif. Il est performatif du discours. Hein. Il produit, sans lui, on n'a pas le discours. Bon, c'est une question de terme, donc. Mais vous faites bien de rappeler qu'Austin est un négateur de l'inconscient, il y en a beaucoup. Mais précisément, le direct, ça n'est pas l'inconscient non plus. Voilà, c'est ce que vous posez, vous questionnez aussi à la fin. Ça surmonte l'inconscient. Et parce que vous voyez bien comment c'est étagé. Il n'y a pas de dit sans dire, acte. Or, l'inconscient tient au dit. Il n'y a d'inconscient que de dit, que des dits. Ça, c'est la thèse de Lacan. L'inconscient, ça passe par les dits. Et donc, avec ça, Lacan, il introduit effectivement quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'inconscient, qui peut y être noué, bien entendu, parce que qui est condition de l'inconscient, comme condition de tous les discours qui nient l'inconscient, d'ailleurs. Alors, est-ce que ça touche au réel? Je ne sais pas, mais c'est un réel, le miracle. Je crois que pour Lacan, c'est un réel. C'est un réel au sens où c'est une origine. C'est une origine, c'est pour ça que j'ai employé le mot spermatique, par métaphore. Bon. Alors,
À vous maintenant. Carlos.
Oui, Colette, je voulais vous poser une question sur l'indir que vous avez.
Oui.
Parmi les propositions que vous avez évoquées sur l'indir, vous avez évoqué des propositions qui sont des propositions qui peuvent s'appliquer chez la Chrome aussi à son élaboration sur le fantasme, donc, sur le fantasme fondamental, c'est-à-dire par exemple c'est la phrase en fait qui, ouais, l'exemple que vous avez donné sur la biographie, il a utilisé ça aussi pour le fantasme comme une phrase, c'est quelque chose qui serait aussi des disons de la fin d'analyse, ça a été d'ailleurs le critère en fait à une époque, réponse au Kevoy. Donc à partir de là, je voulais vous poser la question de savoir quelle est la différence pour vous, ou plutôt le rapport entre l'indir et cette conceptualisation du fantasme. Voilà, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a un degré? Voilà ma question.
On va prendre plusieurs.
Oui.
Une autre question. Oui. Le micro.
Bon, je vais essayer de formuler ça. Ça marche. Je vais essayer de formuler la question clairement. Ça touche. Est-ce qu'il y a, y aurait-il un rapport, un lien entre le dire de la demande à interpréter et le indire qui émerge ou émergerait en fin d'analyse? J'essaie de développer là-dessus. Donc, le indire de la demande dans le texte en référence qu'habite l'objet, l'objet A dans sa dimension de plus de jouir, donc qui est la visée de l'interprétation, est-ce que le indire de la fin d'analyse qui viendrait faire ce qu'on a dit, qu'une biographie bien faite finalement. D'une biographie bien faite, sortirait, émergerait un dire qui donnerait l'axe de toute une vie, c'est-à-dire finalement la quête de la jouissance du sujet. Est-ce que. Donc la question c'est ça, est-ce qu'il y a un rapport entre ce un dire sur. Qui indique la jouissance, la quête de jouissance du sujet et le dire de la demande qu'habite l'objet A qui est à interpréter?
Oui. Qui peut le dire?
C'est à vous que je pose la question.
Bah, c'est pas sans recouper un peu la question de Carlos. Hein. Parce que, au fond, l'idée d'un élément unaire, l'idée qu'il y a quelque chose qui... Il y a la division du sujet, le quelque-deux du sujet, il y a la division du sujet, mais l'idée qu'il y a quand même un élément unaire, quelle que soit la place où on le met, a été là depuis longtemps chez Lacan. Elle était là en d'autres termes. Bon, alors... quand il parle de la demande à interpréter, il est dans une élaboration qui précède le séminaire en cours. Et c'est pour ça que j'ai dit c'est pas le dernier mot. Donc on pourrait s'amuser à faire un travail, prendre les différentes strates de l'enseignement de Lacan et chercher où il situerait le 1. Et en quels termes le 1 qui surmonte la division du sujet. Le 1, le signifiant 1, l'indire, surmonte le sujet qui ne se suppose qu'entre deux signifiants. on pourrait faire ça. Mais quelle est la différence? C'est qu'à la fin, l'undire, c'est pas seulement l'undire du fantasme, c'est l'undire du nœud broméen. Et dans le nœud broméen, c'est en quelque sorte le nouage du fantasme et de la jouissance opaque, non fantasmatique, du symptôme. Bon. Et donc Lacan continue à utiliser cette expression du indire, mais la façon dont il la construit est plus complète. Ce qui fait que, j'ai dit, ce n'était pas net, mais de la même façon qu'il dit l'interprétation va faire paraître la stance en dessous, l'interprétation va faire paraître plutôt le métabolisme, ce que j'ai appelé la jouissance nodale, le métabolisme des diverses jouissances. Donc, c'est pas qu'il y a un rapport entre l'indire de la... Je sais pas, peut-être la question, y a-t-il un rapport entre l'indire de la demande et l'indire de faim? Si vous prenez l'indire de faim comme l'élucidation de l'indire de la demande, il n'y en a pas. Si vous prenez l'indire de faim comme la visée du métabolisme borroméen, ben il y en a un. Je dirais ça comme ça. Mais c'est vrai que pour répondre à Carlos, quand Lacan, c'est à partir du fantasme qu'il a commencé à, où c'est vraiment net dans la logique du fantasme, dans son idée que le fantasme c'est le réel. Le fantasme c'est le réel. Le fantasme c'est pas le réel, évidemment. Dans le monde réel, le fantasme c'est pas le réel. Mais il disait c'est le réel parce que le fantasme, justement, il n'est pas inclus dans l'articulation signifiante. Il est un élément hétérogène à l'articulation, oui, du fait du tita, hétérogène à l'articulation signifiante. Et donc, il est en position de postulat, référence à la logique, d'exception, ce qui est toujours à la même place, ce qui ne bouge pas, etc. Donc, on voit bien là qu'il avait, qu'il cherchait ça. Hein. Il cherchait le 1 de ce sujet divisé, dont nous nous enchantons depuis tant d'années.
Alors, prolonger votre discussion, parce que j'aurais posé la même question que Carlos, tu l'ajoutes donc à la jouissance fantasmatique dans l'écriture borroméenne. Je suppose que tu l'écris à la fois dans l'unule du sens et de la jouissance phallique.
Le fantasme.
Oui, cette jouissance fantasmatique.
Oui, dans
tu lui ajoutes la jouissance opaque. Oui. La troisième unule d'intersection.
Oui. Oui.
Donc, c'est ça le truc en plus, quoi.
Ah ben, le truc en plus qu'il y a dans le borné, hein, oui. Alors d'où ça sort chez Lacan, ce truc en plus? Parce que quand même, c'est pas la prestidigitation. Hein. Ça sort de l'idée de la distinction entre le langage et la langue, de l'idée que la langue a des effets de corps qui ne sont pas des effets de chaîne signifiante. Ils ne sont pas des effets de chaîne signifiante et que donc il y a de la jouissance qui n'est pas sans lien au langage, au fait d'être parlant, qui n'est pas sans lien au fait d'être parlant, et que cette jouissance-là n'a pas rapport au fantasme.
C'est ça, c'est
la jouissance. La jouissance opaque, c'est la jouissance non fantasmatique, ça c'est sûr.
Jusque-là, je te suis. Oui, la question porte du coup sur la place de cette jouissance opaque dans l'expérience analytique même. Et son banniement éventuel.
Oui, oui. Ben, la grosse difficulté, c'est que dans l'expérience analytique de l'opacité, il y en a beaucoup. C'est pas ta question, je suppose, ne veut pas dire que tout est limpide et qu'on cherche un élément opaque. Beaucoup de choses paraissent opaques. Beaucoup de choses paraissent opaques, on pourrait même dire que l'analyse, ça commence avec de l'opacité, hein, de la souffrance, mais aussi de l'opacité. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'analyse? Au fond, une partie de l'opacité se... Comment on appelle quand l'opacité disparaît? Se dilue, elle se dissipe, elle se lève comme un brouillard qui se lèverait. Et puis, mais reste de l'opacité.
Alors, est-ce que l'intérêt, un des intérêts de cette réintroduction de l'opacité, c'est justement de, est-ce que ça ne serait pas de faire barrage à un trop peu d'opacité du côté de la formulation du fantasme fondamental, de la formulation qui va peut-être venir bientôt de lundi à de chacun, qu'il faut qu'il reste quelque chose d'opaque?
C'est pas qu'il faut, c'est qu'il n'y a pas moyen qu'il ne reste pas.
C'est ça. Il n'y a pas moyen, mais encore faut-il
l'accepter. Il n'y a pas moyen qu'il ne reste pas. Alors, oui, mais ça veut dire que l'idée d'une analyse qui finit dans la transparence à soi-même est un délire.
D'accord.
C'est un délire. Et que l'attente de cette réduction complète de l'opacité, évidemment, est bien faite pour prolonger les circuits. Parce que si on l'attend, on la cherche, et ça dure encore plus. Donc, il y a quand même l'idée que dans l'analyse, avec le temps, il faut cerner, pour chacun, parce que c'est particulier à chacun, il faut cerner ce qui reste de Pâques après des années de travail, d'élaboration, etc. Et qu'il n'y a pas lieu forcément de se désespérer non plus. Il n'y a pas lieu de se désespérer.
Vous pourriez passer le micro au fond avec une dame.
C'est pour ça que je disais, il est content de vivre. Il ne peut être content de vivre que celui qui se satisfait de ce métabolisme de jouissance incluant une opacité irréductible. Et Lacan a beaucoup insisté là-dessus. De toute façon, pas moyen de réduire, d'arriver à élucider complètement les effets de la langue sur le parlant, pour chaque parlant. Donc on élucide localement, partiellement, mais il reste de l'opacité. Il reste des bouts de réel, on peut dire comme ça. Carlos, vous pouvez prendre le micro, Madame Villette.
Est-ce qu'on pourrait résumer jusqu'à une phrase très très simple?
Allumez le micro.
Est-ce que. La phrase que j'extrais de ce que vous avez dit ce soir, est-ce qu'on pourrait dire que la visée de l'analyse, c'est d'obtenir une unité qui surmonte la division du sujet?
Absolument.
Ça paraît presque limpide.
Sans la réduire.
Oui, sans la réduire. Seulement, voilà, sans la réduire, qui la surmonte. Donc la division du sujet est bien là. Quelque chose peut être obtenu comme une, qui fait une unité. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas dire que cette unité est nouée?
Ah ben c'est l'unité borroméenne.
Borroméennement nouée. Voilà, donc ça réduit le risque de penser que c'est quelque chose de limpide. C'est que c'est une unité borroméenne.
Oui, non, mais c'est ce que je dis, hein, c'est une unité borroméenne. Qui, le métabolisme, ça suppose le lien borroméen.
Oui, bien sûr.
Carlos, vous voulez dire.
En fait, je voulais prolonger la question, justement parce qu'au fond, la question c'était de savoir voilà, qu'est-ce que la formulation de Nandir apporte de plus par rapport à la formulation du fantasme. Justement, dans votre exposé, vous avez articulé Nandir avec l'acte de vie. Donc, c'est comme un pied, mais il faut un autre pied. Il y a la dimension de l'acte, il y a la dimension. Et donc, au fond, la question, c'est de savoir si l'utilité d'utiliser l'andir, c'est justement de pouvoir passer, disons, d'une lecture qui consiste à dire j'ai déduit une formule, disons, de ce que le sujet est pour l'autre, par exemple. Disons, de la déduction à partir des dits, par exemple, pour un sujet, de ce qu'il a été pour l'autre, en une position d'énonciation pour le sujet, produit de l'analyse, qui est un acte de dire à partir de laquelle, en fait, il peut, disons, utiliser un critère d'identité, on va dire. C'est ça un peu la question. Si c'est l'indire, ne permet justement de mettre en évidence cette possibilité.
Dans sa pensée, quand même, c'est peut-être parce que j'ai une autre idée du fantasme. Je ne pense pas que le fantasme, je sais bien que les sujets cherchent à explorent ce qu'ils ont été pour l'autre. Mais ça, c'est la face imaginaire du fantasme. Le fantasme, c'est que le sujet est objet et qu'il ne sait pas lequel. Donc, il risque pas d'y avoir un dire de l'objet qu'il est. Et la destitution subjective, tout ce que Lacan construit dans la proposition de 67, ça va pas dans le sens d'arriver à un dire du fantasme. Donc, c'est un peu plus compliqué. Oui, on arrive à un dire de la... Face, ce n'est pas le bon mot, parce qu'on est dans une topologie ou l'autre, mais c'est l'aspect imaginaire du fantasme. Et, bien sûr, c'est très difficile de décoller le sujet de cet aspect imaginaire-là, de ce qu'il croit avoir été, ou ce qu'il dit avoir été pour l'autre. Ça peut se dire, ça peut se formuler, on peut avoir un dire de cela, un énoncé, des énoncés. Mais justement, ce sont des énoncés à ébranler. Des énoncés à ébranler.
C'est la dimension d'usage. Le lien entre l'existentiel et l'usage. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus. Le lien entre l'usage et l'existentiel. Il faut qu'il y ait l'existentiel, que ça existe, exister, se situe en dehors. Il faut qu'il y ait possibilité d'usage.
Oui.
Je pense que pour moi, c'est un terme.
L'usage.
Ah
ben, écoute, alors, l'usage du langage. L'usage du langage précède l'apprentissage du langage.
Oui.
Hein? D'une certaine façon.
Comment ça
fonctionne? On commence à utiliser le langage avant de disposer des règles du langage. Il n'y a pas besoin du linguiste pour apprendre à parler.
Exactement. Hein? Mais comment se l'approprier? Cet usage du langage, je veux
dire. Ah!
Tu vois? Parce que oui. C'est l'inhibition qui me...
Ah oui, mais donc les symptômes au niveau du dire, voilà. Oui.
Oui, ben,
c'est le problème, je ne vais pas toucher à ça parce que je ne vais pas tout dire à la même fois, en même temps, mais c'est quand même donner la dominance à l'existentiel, eh ben, c'est diminuer la référence à la causalité. Hein, ou plutôt à la détermination.
Et, la surdétermination.
Parce que l'existentiel, ben justement, c'est une contingence. Donc c'est ce qui ne s'explique pas.
Voilà.
C'est ce qui ne s'explique pas. Et ça a de grosses conséquences quand même.
Ouais. Parce que...
Ça a des conséquences à la fois négatives et positives. Parce que... tout ce qui est suspendu à l'existentiel peut être bouleversé par l'existentiel. Tout ce qui est appendu au dire acte peut être modifié par un changement du dire acte. Hein, mais pas programmé, voilà, c'est le terme que je cherchais. L'existentiel est improgrammable.
Et donc pas sûr des termes.
Oui, et dans la clinique, on aimerait bien quand même, parfois, pouvoir anticiper, pouvoir prévoir. Mais je trouve que ça, c'est avec le temps, quand on est vieux, avec le temps, ça fait partie des surprises de l'analyse, ça. Hein, ça fait partie des surprises de l'analyse, où parfois, ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais parfois, j'ai pu avoir des cas où il y a un retournement existentiel. Et on ne peut même pas dire que c'est un effet de la psychanalyse. Hein, parce que l'effet de la psychanalyse voudrait dire il y a dans le discours l'élément causal de ce retournement existentiel. Retournement existentiel, il n'a pas de cause.
Qu'est-ce que c'est un retournement existentiel ?
Par exemple, quelqu'un qui est sur un sillon de conduite, de répétition, et ça dure, et ça dure, et il pense, et son analyste pense que éventuellement ça ne changera jamais, que c'est comme ça, etc. Et puis, le sujet fait un... Et on ne sait pas d'où ça sort. Ça ne se reconnaît pas dans tous les cas. Donc la question de la détermination, vous savez, on parle beaucoup des effets de l'analyse. C'est très difficile de situer dans une analyse qu'est-ce qui est effet de l'analyse. Même les effets thérapeutiques, c'est difficile de... Ils se produisent au cours de l'analyse, mais on n'a pas cause-effet. Et les ennemis de la psychanalyse sont bien là pour nous le dire. Mais non, c'est qu'il a vieilli, c'est qu'elle a... Elle a pris de l'âge, elle a changé, mais c'est pas l'analyse. C'est... De toute façon, les analyses sont si longues qu'en effet. C'est pas pour dire que je dis ça. Les sujets qui font pas d'analyse aussi changent.
C'est pas dans le bon sens.
Des fois pas dans le bon sens, des fois dans le bon sens, c'est ça. Donc, situer les effets de l'analyse, c'est difficile déjà. Et c'est vrai, c'est dommageable que ce soit si difficile.
Bah, oui, c'est ce qu'on nous reproche.
On est
oui. Pas pouvoir évaluer.
Je vais parler fort, je ne sais pas si c'est pertinent, mais...
Attends,
Radio.
J'ai trouvé une formule. Alors, j'ai trouvé une formule. Le dire acte est performatif, mais pas performé.
Performé.
Ben oui, c'est une origine, il est direct.
Donc, Colette, une petite question, je ne sais pas si c'est pertinent, mais si on peut dire quelque chose de. Enfin, le dire qu'on disait, c'est la différence absolue qu'on disait. La différence absolue qu'on disait.
Viser.
Et le dire.
Oui, ben, là, l'indire est une version de la différence absolue. C'est une version de la différence absolue. Lacan a d'abord défini la différence absolue comme l'inscription sous le signifiant, sous un signifiant. L'indire n'est pas l'inscription sous un signifiant. Mais bien sûr, il n'y a pas deux indires semblables. C'est aussi différent que les inconscients, le indire.
Est-ce que c'est pour cela que vous dites, symptôme
pour les...
Oui. Est-ce que c'est pour cela que vous dites l'indire, Lacan va le rebaptiser symptôme?
Je le dis parce qu'il le dit, le symptôme, ça, c'est là.
Je poursuis ce que vous disiez. Ce que disait Radou. La différence absolue.
Oui, oui. Oui, oui. Ben, l'indire, c'est du 1.
D'accord.
C'est du 1 de différence absolue. Absolue veut dire que c'est du 1 incomparable. Il y a des 1 de non-différence absolue, c'est ceux qui sont relatifs, qui sont signifiants. Il n'y a pas de différence absolue. Hein? Oui. Alors là, oui, c'est ça, c'est le mot. Bernard me souffle le mot singularité, c'est ça, le dire c'est de la singularité, la différence des singularités.
C'est pour ça que Lacan parle comme un symptôme, le rebaptisera symptôme.
Pourquoi il le rebaptise symptôme? Je ne sais pas quelle est votre question là.
Je reçois ce que vous avez dit, je cherchais à...
Oui, j'ai dit ça, il dit le symptôme c'est le dire.
Voilà.
C'est le dire constituant du nœud. Voilà. C'est le dire constituant du nœud. Alors, pourquoi il a appelé ça symptôme? Bon, ça c'est encore plus.
Madame, vous vouliez parler.
Je me demandais si ce que tu appelais l'identité de séparation, si ça peut se rapporter à ce qui est dit de la vie. Puis après, la seconde question, c'est est-ce que l'acte, le dire acte est contingent, mais le dire, même si c'est le faire de tous les dits, il y a quand même quelque chose qui ne cesse pas. Voilà. Est-ce que c'est de l'ordre de la contingence ou de l'ordre qui ne cesse pas,
la contingence n'exclut pas le ne cesse pas.
Dans la contingence, il y a quelque chose d'inattendu. Et l'indire, c'est comme si on l'inférait, c'est comme si s'il était de tout temps. Sustentant, supportant, quelque chose comme ça. Donc, si... Moi, il n'était pas aussi inattendu que ça. Inattendu, et pas inattendu, c'est quelque chose.
Mais attendez, c'est ce que. Pas parce que le dire acte est existentiel et contingent. Les effets de la langue originaire et du discours originaire ne demeurent pas. Ça ne veut pas dire que toute détermination disparaisse, toute constance disparaisse. Hein? Alors le rapport avec l'identité de séparation, ben oui, bien sûr, s'identifier à son symptôme, c'est vraiment l'identité de séparation accomplie. Si ça arrive.
qui en plus peut rendre heureux.
Il y a une dernière question. Alors merci Colette et merci à vous tous.